soyez avec nous. Vous avez la langue bien pendue, bon sang. Nous reprenons numéro 17.
Troisième épisode de notre série de la semaine qui s'appelle L'Opéra s'amuse, l'opérette en Europe.
Ma voix, j'ai forcé ma voix. L'effort était trop grand. Moins ils sont, plus c'est difficile. C'était idiot, je m'en veux. Je le sais pourtant. J'ai le larynx en mille morceaux. Parce que j'ai tout essayé pour faire réagir trois évêques des colonies, deux vieilles dames et un camelot ivre-mort. Qui cuisaient tous dans leur jus comme des dindes de Noël.
Oui, le camelot est parti à l'entracte.
Quand les intellectuels droits dans leurs bottes vous disent que l'opérette cela fait fuir le public tel qu'il est aujourd'hui constitué, il reste à hausser la voix, il reste la ressource de la défendre d'un point de vue moderne, européen. Mais d'abord, ouvrons le grand dictionnaire de la langue française du 19e siècle. On imagine mal littré, qui était assez casanier, sortir de sa tanière pour aller voir des opérettes. Il en dit seulement que ce sont des ouvrages joués sur différents petits théâtres, fort bien. Et il ajoute que le mot est un diminutif d'opéra et qu'il est passé de l'allemand au français. À cet effet, il prend à témoin Mozart, mais c'est aussi sans doute à Offenbach qu'il pense, et aux origines du compositeur qui l'ont marqué à tout jamais à Paris d'un sceau alsacien, a-t-on dit parfois quand on était indulgent. Il est vrai aussi qu'Offenbach a fait le lien entre la France et l'Autriche de langue allemande, où il se rend régulièrement à partir de 1858 et où il a ébloui le jeune Johann Strauss. Il n'y a donc pas d'opérette que française. La parenté avec l'art des scènes viennoises ne peut être mise en doute. Ce serait quand même mieux pour le décor si on pouvait l'élargir davantage. Le risque est alors d'entrer dans de terribles querelles d'interprétation. À Madrid, il y a bien un théâtre de la Zarzuela, comme à Londres, un théâtre d'opéra comique. Mais la Zarzuela, quelles que soient ses origines de cour, s'inscrit dorénavant dans les quartiers de Madrid et elle est farouchement roturière. L'opéra comique, lui, est très victorien en Angleterre. Peut-être, sans doute, moins irrévérencieux. Enfin, les querelles seraient innombrables, comment décider, l'Europe des peuples n'est jamais facile à dessiner.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Et deux compères toute cette semaine que j'ai envie d'appeler Meillac et Halévy aujourd'hui. C'est Jean-Claude Dion, c'est Philippe Gimplowitz. Meillac et Halévy étaient libraires, puis ils ont continué ensuite une carrière pleine de richesses. Allez, on va dire, Philippe Gimplowitz, que vous êtes Meillac.
Oui, moi ça m'arrange d'être Meillac parce que Offenbach le disait paresseux, il le tannait. Et en tout cas, dans cet épisode, je jouerai au paresseux, à celui qui essayera d'introduire un peu de rigolade, et rien de plus.
Et Dion, alors, Halévy, c'est une bête de somme ?
Oh, c'est quelqu'un, en tout cas, extrêmement torturé, qui a fait pas mal de séjours chez le docteur Blanche, un neurasthénique.
Tout près d'ici, la maison du docteur Blanche.
À Passy.
Très proche de la maison de la radio.
Où il y a peut-être aussi pas mal
de
neurasthéniques.
On va peut-être sortir de
l'air. Et en tout cas, c'est aussi un écrivain merveilleux et notamment toutes les nouvelles, la famille cardinale, l'abbé Constantin. J'incite tous nos auditeurs à lire du Halévy.
Et quand France Inter était installée provisoirement dans un immeuble voisin de la maison de la radio, c'était sur le terrain du parc de la maison du docteur Blanche où Maupassant hurlait.
Voilà, valse de Vienne.
Ach, grandiose,
une crème fouettée.
Le palais de Schönbrunn.
Le Danube bleu. Les Wiener Schnitzel.
Eine kleine Nachmuse.
Ah, il faut prononcer le nom de Johann Strauss d'abord.
Alors là, on est en pleine opérette viennoise. On vient d'entendre un extrait du Chant du Danube, un film de Hitchcock 1934. Et en fait, là, on est plutôt sur l'histoire propre de Johann Strauss, qui, vous le savez, n'est que Johann Strauss II, puisqu'il y a eu son père d'abord, hein, l'auteur de la Marche de Radetzky, et qu'il a dû d'abord arriver à surmonter les réticences paternelles pour s'imposer.
Et la fenêtre d'en face voit s'inscrire, nous sommes toujours dans le film de Hitchcock, hein, la silhouette d'une voisine prestigieuse qui est déjà impressionnée par le jeune homme.
Mais vous êtes le jeune homme que j'ai vu à une fenêtre tout à l'heure, quand le café Besoder brûlait.
Oh oui, madame, mais le feu est éteint maintenant.
Quel dommage. C'est si rare, une flamme à notre époque est déjà éteinte.
Je ne comprends pas.
Je parlais de cette flamme qui vous animait au piano tout à l'heure. Et alors, que chantiez-vous donc au piano ?
Oh, une petite chose que je viens d'écrire.
Vous êtes compositeur ?
Non, je suis le fils d'un compositeur. Strauss.
Ah oui, vous devez avoir hérité de son beau talent.
Mon père n'est pas de cet avis. Il dit que je dois laisser la composition à mes deux frères. Il les a envoyés à Berlin étudier avec Meyerbeer.
Et vous?
Un pauvre second violon dans l'orchestre de mon père.
Mmh.
Mais mon père est un grand musicien.
Et comme tous les grands hommes, il a très peur de céder sa place aux jeunes gens qui sont trop bien doués. Pourriez-vous mettre quelques vers de moi en musique?
Avec joie.
Je pourrais faire publier votre œuvre.
Vous croyez?
Aisément. Mais naturellement, l'éditer ne suffit pas. Il faut qu'elle soit surtout exécutée. Si votre père voulait la faire exécuter par son orchestre...
Ce que moi j'aurais écrit, il ne le voudra jamais.
Il fera cela pour moi si je le veux. Oh, ne vous méprenez pas, je suis une triste poétesse. Mais j'ai un ami qui a beaucoup d'influence. Demain, à 4 heures, venez me voir. Je vous lirai les vers de mon poème. Et vous n'aurez qu'à composer une musique ensuite. Oh Dieu, cette merveilleuse musique.
Voilà le second mouvement.
C'est la meilleure chanson que vous ayez faite.
Je dois vous remercier, parce que sans vous, je ne l'aurais pas finie. Elle aurait encore plus de valeur si mon père consentait à l'exécuter.
Ce qui est intéressant, puisqu'on est dans l'histoire de l'opéra viennoise, là on baigne dans l'opéra viennoise, c'est vraiment une histoire vienno-parisienne, si je puis dire, entre l'Autriche et la France. Et le Beau Danube Bleu, qui avait été créé à Vienne, n'a dû vraiment son succès qu'à l'exposition universelle de Paris, où en fait l'ambassadeur d'Autriche, le couple Metternich, qui était si proche d'Eugénie et de Napoléon III, ont fait venir l'orchestre de Johann Strauss, et c'est les Parisiens qu'ont lancé le Beau Danube Bleu dans l'ambassade, qui est d'ailleurs, notons-le, depuis l'hôtel Matignon, où sont nos chers premiers ministres.
Mais les Français préféraient cette valse au canon Krupp, qui avait été présenté la même année à l'exposition universelle. C'était comment d'ailleurs l'exposition universelle de 67? Pourquoi il y avait cette place faite à la musique?
Parce que c'est effectivement la dernière grande manifestation du Second Empire qui, à cette époque, va assez mal et qui veut masquer sa décrépitude sous une fête éternelle. Alors, il y a quand même Maximilien qui se fait exécuter au Mexique au même moment, donc ça va jeter une ombre. Mais c'est vrai que c'est une fête extraordinaire. C'est Offenbach, c'est la Grande Duchesse. C'est donc, on l'a dit à l'instant, le Beau Danube Bleu avec Johann Strauss. C'est à l'Opéra de Paris, Don Carlos avec Verdi. Et puis, c'est ce magnifique palais au Champ de Mars, un palais provisoire dont la conception est extraordinaire, puisqu'en fait, on a un palais ovale où lorsqu'on fait le tour, on peut voir toutes les productions d'une même catégorie. Et puis lorsqu'on prend les radiales, on voit toutes les productions d'un même pays. Donc vraiment un moment extraordinaire.
Et pour la musique, quelque chose d'exceptionnel aussi, c'est tous les cuivres français, tous les instruments avant sont exposés. Et c'est un moment de gloire pour la facture instrumentale, pour les instruments français et pour les orphéonistes aussi qui se produisent dans ce cadre. Et d'ailleurs, quand j'écoute le Beau Danube Bleu, ça sera un tube de la musique populaire aussi, à tel point qu'on l'appellera le Beau Danube boueux, tellement il a été joué, embourbé.
Johann Strauss, on pense automatiquement aussi à la chauve-souris. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport d'ailleurs entre une autre exposition universelle et la chauve-souris?
Alors, exposition universelle de Vienne, hein, effectivement en 1873, mais là encore, on est vraiment, pardon, je reviens toujours à Offenbach, c'est pas une idée fixe, mais c'est parce que...
un peu.
Oui, bon, avouons-le. C'est vraiment parce que c'est la carrière viennoise d'Offenbach, qui faisait donc une carrière parallèle pour monter des versions germaniques de ses œuvres, qui a un peu agacé au fur et à mesure les compositeurs autrichiens. D'ailleurs, les deux hommes se sont d'abord affrontés dans une lutte de valse. Ils ont tous les deux composé une valse. Une s'appelait Les Feuilles du Soir, l'autre Les Feuilles du Matin. C'est pas les feuilles d'arbres, c'est les feuilles des journaux, parce que c'était pour un gala payé par la presse viennoise. Et puis, Strauss a voulu absolument battre et se mesurer à Offenbach sur le terrain de l'opérette, et ça a donné la chauve-souris.
Et un mot français va être prononcé dans l'air du prince Orlovski. Le prince Orlovski, c'est un travesti?
Oui, les rôles en travesti sont très nombreux dans l'appartement offenbachien et dans l'opérette.
Agnès Balsa et l'orchestre de la radio bavaroise.
Ce qui est drôle dans la carrière d'un musicien, cher Jean-Claude et cher Jean, Johann Strauss, c'est déjà un vieux musicien quand il se lance dans l'opérette. Hein. Il a 50 ans au moment de la chauve-souris. Il s'est fait un nom comme musicien de bal, donc c'est les valses. Et cette opérette, la légende dit qu'il l'a créée en 45 jours d'inspiration, de forte exaltation. En tout cas, on va revenir au thème avec Jean-Claude, mais bon, le thème général, il est très parisien, c'est vrai, quoi. C'est une femme, un amant et un mari, et il s'agit de sauver l'honneur de la dame qui vient de rencontrer son amant, et tout va s'imbriquer là-dedans, dans quelque chose de très parisien dans cet adultère sauvé.
Oui, parce que on vient d'entendre un éloge du champagne, produit d'exportation s'il en est, mais autre chose qui s'exporte très bien au 19e siècle, c'est le répertoire théâtral parisien, et donc là en l'occurrence le livret de la chauve-souris, Die Fledermaus, est vraiment copié d'une façon très précise sur une pièce de Meillac et Lévy, donc nous deux on a bien compris.
Toi Lévy, moi Meillac. Hein.
Voilà.
Exactement. Mais si vous vouliez bien être moins franco-centré, le titre de l'épisode, L'or et Perrette en je croyais que dans l'opérette viennoise, il y avait du folklore viennois, urbain, du folklore régional autrichien.
Alors, effectivement, donc Le Réveillon, pièce de Meillac et Lévy, 72, tout de suite copié dans La Chauve-souris, ça montre bien ses origines françaises. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, si ça marche, c'est parce que ça s'ancre sur certaines réalités. Et donc, en l'occurrence, pour Vienne, c'est tout ce répertoire que les Viennois adorent et jouent encore, mais qui est complètement inconnu à l'étranger, qu'est-ce qu'on appelle la posse Mitgesang, qui est la farce chantée avec des auteurs comme Nestroy ou Raymond, qui sont encore beaucoup joués au Burgtheater à Vienne, mais qui n'ont jamais été traduits. Donc, il y a un terreau local, et puis il y a ce modèle offenbachien qui va, et puis bien sûr il y a la valse, puisque l'opérette viennoise comporte énormément de valses, donc tout ça fait un mélange et fait un produit particulier.
Oui, et puis enfin la valse, le bal, est censé remplacer une partie fine qui était dans Le Réveillon aussi.
Oui, hein. Tout à fait.
Marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
L'opérette en Europe, avec dans le rôle de Meillac Philippe Quimplevis, dans le rôle d'Alévi Jean-Claude Yon. Est-ce que le mot opérette, ça convient à la veine britannique ?
Alors en tout cas, pardon de le répéter, c'est là encore le succès extraordinaire d'Offenbach en Angleterre, qui va susciter la volonté de créer l'équivalent national. Hein, au 19e siècle, les Anglais attendent vraiment un compositeur national, hein, puisque c'est le pays sans musique, comme on le dit. Et en l'occurrence, ce compositeur, ça va être Arthur Sullivan, qui va faire équipe avec cet auteur dramatique Gilbert. Et donc, on a Gilbert and Sullivan, c'est le librettiste et le musicien. Et ensemble, ils vont écrire entre 1871 et 1896 à peu près 14 opérettes qui sont restées maintenant dans la culture anglaise et qui gardent une place assez extraordinaire.
La première collaboration aboutit à un spectacle le 26 décembre 1871. Rassurez-vous, les opérettes, ce n'est pas toujours à Noël.
Non. Là, en l'occurrence, c'est la production de Gilbert Sullivan, qui est aussi très liée à un théâtre qu'on connaît bien, qui est le Savoy Théâtre, ouvert en 1881 et qui va être d'ailleurs le premier théâtre électrifié au monde. Il y a vraiment ce rapport entre opérette et modernité. Et puis, c'est un grand producteur qui s'appelle Dolly Cart qui ouvre le théâtre et qui va d'ailleurs créer ensuite le Savoy Hotel, pour mon accent, qui est bien connu. Donc, effectivement, on a là un produit qui est aussi un produit économique absolument performant.
Il y a un rapport avec la modernité, mais il y a un rapport avec Noël aussi. Hein. C'est que pendant deux siècles, tous les théâtres vont s'efforcer de... à l'avance de proposer des spectacles pour les fêtes de fin d'année.
Mais pas dans le cas de Gilbert et Sullivan.
Pas chez eux.
En tout cas, non. Les créations n'ont pas lieu forcément à cette époque-là. Mais c'est vrai que, de toute façon, on fait notre émission à l'époque de Noël. C'est pas pour rien. Ouais, il y a une actualité.
Mais ça fatigue un peu de travailler en duo. Il y en a un qui dit des choses qui contredisent ce que l'autre vient d'exprimer. Ça s'est pas toujours bien passé entre Gilbert et Sullivan. Première collaboration, 1871. Une crise, 13 ans plus tard, en 1884. Que raconte un film que vous aimez bien ?
Ah, qui est, à mon avis, le meilleur film sur les spectacles au 19e siècle.
Hein. Notez bien, chers auditeurs, c'est voilà, assez rare
vraiment, et
que Jean-Claude
Bion...
C'est l'expert, hein, c'est l'expert.
On a passé Noël, mais si pour les fêtes de l'an, vous avez un cadeau à faire, achetez et offrez le DVD de Topsy Turvy de Mike Lee, qui est un film extraordinaire sur cette collaboration de Gilbert et Sullivan, et notamment sur une offre dont on va parler à l'instant.
Oui, alors, comment ils commencent à s'affronter, là, hein, sérieusement. L'un est peut-être un peu fatigué, accablé de travail, enfin, veut aller vers une musique plus sérieuse. C'est Sullivan.
Comment dire ? Mes mélodies, mes orchestrations deviennent répétitives. J'ai fait le tour de tous les rythmes, de toutes les variations possibles. J'ai un tel respect pour vos paroles, je n'ai cessé de tenir la bride à ma musique afin qu'on puisse les entendre. Elle soutient les paroles, rien d'autre.
Sullivan, j'ai toujours subordonné mes mots à votre musique.
Je ne crois pas, non.
Vous avez longuement confié à moi et à d'autres que vous étiez tout à fait satisfait de notre collaboration.
Sans l'ombre d'un doute, mais je veux donner à ma musique une chance d'agir dans sa propre sphère.
C'est ce qu'elle fait. Elle l'a toujours fait, elle le fera toujours.
Oui, mais je souhaite qu'elle souligne l'émotion, les sentiments, non des seules paroles, mais encore des situations, qu'elles soient humoristiques, dramatiques, tout ce qu'on voudra.
Bien sûr. Voyons, vous voulez bien que je vous lise ceci, oui ou non ?
Où situez-vous l'action ?
En Sicile, dans les montagnes. Il me semble que cela vous permettra d'y mettre de la musique tzigane. Donc, l'alchimiste du village est tué dans une explosion. Et en examinant ses effets, le cœur des villageois découvre une potion.
Une potion magique, sans doute ?
Certes.
Je me disais aussi.
Or, l'effet de cette potion magique est de transformer quiconque l'avale en ce qu'il ou elle faisait semblant d'être quand il l'a bu.
Oh, Gilbert, vous et votre monde absurde est sans queue ni tête. En 1881, c'était une monnaie magique. Un peu avant, nous avions vu un losange magique. Et en 1877, c'était un élixir.
En l'occurrence, c'est une potion magique. Le Mikado ou la ville de Titipou. Acte 1. La scène est dans les jardins du palais de Coco à Titipou. Des nobles japonais sont assis ou debout dans diverses attitudes inspirées des estampes japonaises. Le cœur. Apprenez à nous connaître, nous sommes des gentilshommes nippons. Sur bien des vases et des jarres, des paravents, des éventails, de grands artistes nous ont peints. Admirez donc notre maintien. Récitatif de Nankipu. Noble seigneur, je vous prie de me dire où loge une vierge ravissante que l'on nomme Yum Yum, la pupille de Coco. De grâce, parlez, oh, parlez, je vous en prie. Japonais.
Japonais.
Non.
Non.
Merci infiniment.
Monsieur Gilbert, vous permettez ? Japonais.
Japonais.
Oui. Un, deux, deux. Deux.
Allons-y, allons-y, c'est ça. Très bien. Parfait, c'est exactement ça. Merci infiniment, mesdames. Parfait, admirable. Merci infiniment, c'est très...
Merci, madame Rossin.
Bon, Dauban, c'est très exactement ce que je veux.
Donc, on vient de l'entendre, le duo à bout de souffle doit son salut au Japon, puisque c'est en imaginant cette opérette japonaise, le Mikado... ou la ville de Titipou, que Gilbert et Sullivan vont se relancer. L'œuvre est créée en 1885. Elle aura 672 représentations. C'est un succès extraordinaire. Philippe va dire un mot dans un instant de cet exotisme qui, cette fois-ci, n'est plus de proximité. Mais moi, j'aurais juste précisé un élément avec Gilbert et Sullivan. C'est vraiment une opérette victorienne, c'est-à-dire alors avec un non-sens et des textes à mourir de rire. Et en même temps, les valeurs victoriennes sont vraiment renforcées. Il n'y a rien sur l'adultère, rien sur la religion. Les femmes sont beaucoup moins valorisées que dans Offenbach. Donc on a là encore une opérette complètement adaptée à une société, mais avec une finesse et notamment une qualité de livret exceptionnelle.
Ce qui est étonnant dans ce genre de spectacle, c'est l'importance du duo, quoi. Effectivement, un compositeur d'un côté, un librettiste de l'autre, il faut que ça marche. Et il y a une qualité d'artisanat, il y a des couples qui marchent et des couples qui ne marchent pas. Et quand ça marche, ça fait des étincelles. Et dans le dialogue que l'on vient d'entendre, il y a un mot qui m'a fait tiquer. qui est très très présent chez Offenbach, c'est le mot situation. Sullivan dit à Gilbert, voilà, je veux des situations à mettre en musique. Pas des mots, pas des couplets, des situations. Des situations, c'est quoi? C'est du vivant, c'est de la chair, c'est du sentiment, c'est des personnages face à face. Et trouver cette situation pour rendre compte du réel de la vie, parce que c'est ça l'opérette, l'opéra comique, c'est rendre compte, on a affaire à des semblables, pas à des modèles comme à l'opéra. On a affaire à des gens comme nous, et il faut les trouver. Et ce qui est rigolo là, c'est que ces semblables, on les trouve effectivement au lointain. Donc c'est le Japon, dans un tout autre genre, on a Léo Delibes, l'Acmé, c'est l'Inde, la princesse inaccessible, qui finalement va tomber amoureuse de l'officier anglais, mais on a une chimie très compliquée à faire, qu'on retrouve mais vraiment tout au long de cette histoire.
Oui. Changement de décor, changement géographique, est-ce que c'est encore de l'opérette, est-ce que c'est encore de l'opéra comique, en tout cas c'est une péninsule.
Pourriez-vous aller faire du bruit ailleurs? J'ai la tête assez délicate.
Zarzuela d'Espagne. Il y avait des spectacles de Zarzuela, Jean-Claude Yon, qui, dans un théâtre dévolu à Madrid, pouvait avoir lieu de 20h à 2h. Ça changeait toutes les heures, comme les cinémas permanents du XXe siècle autrefois, vous savez.
C'est ce qu'on appelle le théâtre par heure. C'est vraiment une spécificité espagnole qui commence en 1867 et ça va créer ce qu'on appelle au sein de la Zarzuela le género chico, donc le petit genre, avec donc des œuvres adaptées à ces conditions matérielles de représentation. Alors la Zarzuela, c'est vraiment quelque chose de très compliqué et qui
ça vient de très loin
puisqu'en fait ça remonte au XVIIe siècle, donc 4 siècles d'existence. Les spécialistes parlent de 20 000 œuvres, de 500 auteurs, et donc par rapport à tout ce qu'on raconte aujourd'hui, il y a bien sûr un lien avec cette diffusion de l'opérette française, et on a eu à Madrid des bouffes madrilènes qui étaient l'équivalent des bouffes parisiens, mais c'est vrai que là ça...
C'est un autre filon.
C'est un autre filon, et c'est quelque chose qui, vous l'avez dit, est un continent en soi.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient en partie de la cour, et puis que ça, un peu comme la corrida, émigré de la cour à la ville, ça a gardé peut-être certaines formules dans certains types de morceaux, je sais pas, la passacaille, la chaconne de cour, mais c'est le produit de la ville.
C'est le produit de la ville et on va avoir un répertoire donc pour la fin du 19e siècle où on a à la fois donc le genre chico, le petit genre, et puis la zarzuela grande développée sur plusieurs actes où effectivement les mœurs du petit peuple madrilène sont vraiment mis en scène avec du coup un très fort anticléricalisme, avec des attaques aussi très très poussées contre les policiers, contre toutes les institutions. L'une des œuvres les plus connues, c'est la Grande Via qui reprend le nom de cette artère qu'on connaît tous à Madrid, et donc un répertoire vraiment énorme et très spécifique.
Jean-Claude Carrière avait révélé au public d'Avignon, en 1992, dans une cour de lycée, il me semble que c'était la cour du lycée Saint-Joseph, la Zarzuela. C'était un spectacle assez extraordinaire, dont voici un extrait.
Une fois par semaine, mon père se réveillait en fredonnant ça. Quand je lui demandais d'où ça vient, il me répondait qu'il n'en savait rien. Ça vient du quartier de la Paloma à Madrid. Il me raconta qu'au 19 habitait une jeune fille humble et travailleuse, comme disaient les anciens. Un jour, elle trouva dans la main d'un enfant une image de la Vierge, un bout d'image déchirée. On commença à raconter que cette Vierge, la Vierge de la Paloma, guérissait les enfants. Tout le monde venait, même les femmes enceintes, même la reine un jour avec sa sœur. Ici, tout était miraculeux. Le 15 août, pour la fête de la Verbena de la Paloma, tous les habitants se levaient le matin et ils se prenaient pour des chanteurs de zarzuela. Et ils chantaient, juste pour un jour. Le parlait était nouveau comme tout le monde. Nous devons répéter les chants. Antonia,
si.
Antonia, puisque vous vouliez participer, ayez l'amabilité de vous joindre à l'eau. Voilà, mettez-vous à plat, s'il vous plaît.
Jean-Claude Dion, on commence autour d'un hôtel de fortune. Il y a, paraît-il, des miracles autour de la Vierge. Et puis ça peut devenir assez vite irrévérencieux, la zarzuela.
La zarzuela, notamment de la fin du 19e siècle, est effectivement très irrévérencieuse. D'ailleurs, pour citer quand même le nom d'un compositeur, Ruperto Chapi, qui est vraiment un grand nom de cette zarzuela 19e-iste, sa principale œuvre en 1897, c'est la Revoltosa, donc la rebelle, et c'est toute la zarzuela qui est rebelle.
Et c'est très différent de l'opéra comique anglais dont vous nous avez parlé dans un instant, qui respectait les codes victoriens. La reine Victoria est plus puissante que la reine Isabelle. On peut peut-être d'ailleurs faire une typologie politique ou d'autres typologies de genre qu'on a étudié toute la journée.
Oui, bah, toutes les typologies sont possibles, mais il y en a une qui s'impose à mes yeux, c'est la typologie nationale. L'inscription dans des bribes de folklore local, dans des bribes d'urbanité locale. Et d'ailleurs, cette opéra comique, opérette, comédie musicale, est ancrée là-dedans, je veux dire, et par rapport à une opposition avec le grand opéra. Le grand opéra naît au XVIIe siècle, et c'est un opéra de cour, c'est un opéra cosmopolite, l'opéra seria, c'est en italien, on parle la même langue musicale et la même langue vernaculaire. Et à mesure que l'on avance vers le XVIIIe siècle, les États-nations prennent de l'importance et on parle en langue nationale. On n'a pas parlé du Singspiel, par exemple, aujourd'hui, pour Vienne et pour l'Allemagne, le bateau d'opéra ancêtre de l'opéra britannique, là, effectivement, la zarzuela. Et dans tous les cas, il y a une redistribution, une recomposition sur des valeurs nationales et des valeurs populaires, parce qu'on a parlé d'irrévérence, et là encore, autant le modèle de l'opéra, c'est un modèle noble, des grandes passions et des choses que nous ne sommes pas capables de vivre, autant le modèle opéra comique, ce sont des sentiments et des situations que nous sommes à même de comprendre parce que nous les vivons.
C'était l'épisode numéro 3 de notre série L'Opéra s'amuse, opéra comique et opérette en Europe, Europe des nations, a dit Philippe Gimplowitz. Jean-Claude Dion était son compère. La réalisation Stéphane Ronxin, la préparation de la série de cette semaine Martin Cellier, et à la technique Fabrice Desmazes.